François-Xavier Bellamy, le tête de liste des Républicains pour les élections européennes, est notre invité à présent. Bonsoir, Monsieur Bellamy.
Bonsoir.
Hier, des mains ensanglantées étaient taguées sur le mémorial de la Shoah, avec une particularité. Ces mains, qui sont le symbole du mouvement pro-palestinien depuis le 7 octobre, ont été taguées, ont souillé le mur des justes. Et vous vous êtes rendu, vous, directement sur place, quelques heures seulement après qu'on apprenne cette information. Mais nous qui avons fait une édition spéciale hier soir là-dessus, on se demandait ce qu'il fallait dénoncer. Est-ce qu'il faut dénoncer des gens qui appellent au meurtre, parce que des mains ensanglantées, qui rappellent des soldats...
C'est un appel au meurtre, bien sûr.
Ah, c'est appel au meurtre, parce que ça peut aussi être ça peut être mélange des génocides, ça peut tout être. Alors, appel au meurtre pour vous.
Moi, je crois qu'on voit depuis, malheureusement, des semaines dans notre pays, des gens qui utilisent des expressions, des signes, des symboles qui partout disent l'antisémitisme, et ils ont beau se chercher des excuses ensuite ou trouver des contournements, des justifications alambiquées pour donner un autre sens à ce que tout le monde voit. Il faut dire ce qu'on voit, il faut voir ce qu'on voit. Il faut simplement ouvrir les yeux et dire ce que signifient ces mains rouges. Elles sont les mains trempées dans le sang des soldats israéliens lynchés, et elles disent ces mains, nous montrerons nos mains tachées de votre propre sang. Ces mains qui ont été peintes au mémorial de la Shoah, pour moi, c'est l'indignité, c'est l'indécence absolue. C'est s'attaquer même aux morts. C'est s'en prendre à la mémoire d'un génocide. Et à travers cette mémoire et le négationnisme que cet acte vient révéler, c'est en réalité porter l'acte d'une menace explicite. Pas seulement contre la communauté juive de France, mais à travers elle, contre la France. Parce que ma conviction profonde, c'est que ce qui est attaqué dans un acte d'une telle nature, c'est évidemment ce que notre pays a le devoir de défendre, a le devoir de dire à temps et à contre-temps, y compris au nom de sa propre histoire.
Je vais vous dire, François-Xavier Bellamy, j'en ai beaucoup vu depuis le déclenchement des opérations à Gaza. Mettons, je veux dire, depuis après le 7 octobre. On laisse le 7 octobre, on va en parler dans une minute. Je pense que c'est le pire de ce que j'ai vu. Parce qu'en plus, c'est sur le mur des justes. Donc ça veut dire quoi? Même les justes qui ont sauvé des juifs pendant la guerre, on doit souiller leur monument, on doit le profaner. J'ai l'impression que c'est... Puis parce qu'en effet, ça transpire la menace. J'ai l'impression que c'est le pire.
Et vous savez, pour moi, il y a une chose qui rajoute encore à l'horreur absolue, que cela ait été volontaire ou non. Ces inscriptions ont été peintes et découvertes un 14 mai. Et le 14 mai, c'est l'anniversaire de la rafle du billet vert, la première rafle massive des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment aller jusqu'au détail pour profaner cette mémoire, pour la souiller, pour l'insulter. Vous savez, la civilisation... malheureusement n'est jamais complètement immunisée contre la violence et la haine, mais habituellement elle porte toujours avec elle une ligne rouge absolue, c'est qu'on ne s'attaque pas aux morts. Et là je crois qu'on en arrive vraiment à ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire que les victimes de la Shoah et ceux qui se sont engagés pour résister au pire au moment le plus sombre de l'histoire de notre pays sont aujourd'hui traînés en accusation, dans une inversion accusatoire absolument délirante et absolument scandaleuse.
Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, a dit « Aucun tag, aucun symbole antisémite n'est tolérable, mais certains font plus mal que d'autres ». Et je crois que ça résume un peu le sentiment en général. Il se trouve que vous vous êtes rendu aussi devant Sciences Po, c'était la semaine dernière, avec une vidéo qui a énormément tourné, que tout le monde a vue, parce que vous êtes retrouvé face à face avec Louis Boyard, qui est de la France Insoumise, on le sait. Et là, pareil, vous étiez venu porter la contradiction. Pourquoi est-ce que vous êtes rendu devant Sciences Po?
J'ai été à Sciences Po parce que depuis de longs jours déjà, nous voyons se multiplier les blocages. Et dans ces blocages, malheureusement, les actes, les gestes, les paroles, là encore, marquées par l'antisémitisme qui monte. Et en découvrant ce matin-là que Sciences Po était de nouveau bloqué, je me suis dit c'est pas possible. C'était vraiment totalement spontané, c'est une impulsion immédiate. Je me suis dit on peut plus laisser le terrain, on peut plus leur abandonner un centimètre de terrain. Il faut montrer que ces gens-là ne représentent pas ni Sciences Po, ni nos universités, ni nos amphis, que nos facultés ne leur appartiennent pas. Et je crois que c'est important symboliquement, même si c'est bien peu de choses malheureusement, mais c'est important symboliquement de montrer qu'ils n'ont pas toute la place, dans, notamment dans notre monde académique et notre monde universitaire. Et...
Pardon, je vous ai interrompu, c'était pas volontaire, mais
pardon,
justement je voulais dire qu'on va vous redonner la parole parce qu'il se trouve que vous avez été invité pour le rencontrer cette fois-ci sur le plateau de BFM, c'est dimanche soir. Vous allez revenir sur cette question de génocide ou pas ?
J'imagine, bien sûr, qu'on y reviendra. Le fait est que Louis Boyard, devant toutes les caméras qui nous filmaient ce jour-là, a répété ce que j'entends depuis des mois au Parlement européen. La France insoumise se distingue aujourd'hui en Europe, y compris de son propre groupe politique, parce que les députés de la France insoumise refusent encore aujourd'hui de dire que le 7 octobre a été un attentat terroriste antisémite. Ils préfèrent utiliser l'expression « immonde » de crime de guerre. Immonde parce que parler de crime de guerre, ça voudrait dire qu'il y avait deux armées régulières, l'une face à l'autre, et que l'une a peut-être un peu dérapé dans l'emploi de la violence. Mais il n'y avait pas deux armées régulières. Il y avait d'un côté des terroristes islamistes et de l'autre côté des civils désarmés, des femmes, des enfants, des hommes qui ont été pris pour cible uniquement parce qu'ils étaient israéliens, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et je crois que refuser de dire que le 7 octobre a été un attentat terroriste, un attentat antisémite, c'est évidemment se mettre à l'écart de ce qui doit être le principe qui nous réunit tous, par-delà tous les clivages politiques. La démocratie, c'est du pluralisme, et j'aime le pluralisme, et j'aime la contradiction et la conversation physique, mais là, il y a quelque chose qui est au-delà de tout désaccord possible, qui relève évidemment d'une forme d'apologie du terrorisme, et cette apologie, on la retrouve lorsque Mme Rima Hassan, qu'elle le veuille ou non, à la question de savoir si le Hamas mène une action légitime, après le 7 octobre, choisit de répondre « oui ». Ce « oui-là », rien ne pourra jamais l'excuser. Ce « oui-là », c'est une faute irréparable.
Et est-ce qu'Israël a le droit de se défendre ? Elle ajoute non. Vous avez présenté votre programme mardi, accompagné des principaux responsables de votre mouvement, et c'est vrai que c'est un peu nécessaire, tout le monde l'a souligné, hein, je ne suis pas le premier à le faire. Est-ce que vous avez du mal, apparemment, à émerger d'un groupe dans lequel on retrouve également le Rassemblement National, on retrouve Valérie Ayer surtout. Sur quoi vous pensez que doivent appuyer aujourd'hui les Républicains pour se faire entendre face à le Rassemblement National qui caracole en tête et le candidat socialiste ou bon, apparenté socialiste qui finalement fait un score qui est tout à fait honorable. Sur quoi est-ce que doivent appuyer les Républicains pour se faire entendre ? Je vous entends parler d'une voix forte. Quel doit être l'axe sur lequel vous devez, avec lequel vous devez vous adresser aux Français ?
Vous savez, nous sommes dans une campagne qui se caractérise par le fait que nous restons cohérents avec les engagements que nous avons pris, les combats que nous avons menés au cours du dernier mandat. Le Rassemblement national n'a cessé de se renier sur les questions européennes et au Parlement européen, au cours des cinq dernières années, il n'a en réalité rien fait. Il n'aura mené aucun combat. Il sera rester silencieux sur tous les sujets. Quant à la majorité présidentielle, à mon grand regret sur l'essentiel des questions politiques qui auront été discutées au cours des cinq dernières années, elle aura fait la politique de la gauche, et d'ailleurs elle le reconnaît, Valérie Ayer le dit en commençant cette campagne, je vote 90% avec les socialistes. Et moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a besoin de sortir du déclin qui la menace, qu'elle a besoin de se renforcer pour pouvoir défendre ses principes, pour assumer la responsabilité qui est la sienne, y compris sur le plan géopolitique. Et notre combat à nous, c'est de faire en sorte justement que l'Europe se réarme pour être fidèle à sa mission aujourd'hui dans un monde où les tensions géopolitiques n'ont jamais été aussi grandes.
D'ailleurs, c'est vrai, vous avez fait remarquer, beaucoup de gens disent, tiens, on n'a pas essayé le Rassemblement National, mais pas en Europe. Au Parlement européen, on a déjà essayé. Ça fait 10 ans que c'est déjà, qu'on a déjà essayé de voir ce que ferait le Rassemblement National.
Ça fait 10 ans que le Rassemblement National gagne les élections européennes, que les Français lui confient le plus grand nombre de parlementaires à Bruxelles et à Strasbourg. Et au bout de ces 10 années, avec quel bilan revient-il ? En réalité, rien du tout. D'ailleurs, ils ne prétendent même pas avoir un bilan. Et ce n'est pas contrairement à ce qu'ils voudraient dire qu'ils sont dans l'opposition et que par conséquent, personne ne les écouterait. Non, le Parlement européen, c'est un lieu où chaque voix peut compter dans des débats qui sont souvent extrêmement disputés. Par ailleurs, le Rassemblement national, en réalité, je crois, contrairement à ce que voudrait laisser penser le changement de son discours, sur bien des questions, en réalité, reste fidèle à ses tropismes. Et on l'aura constaté sur des questions qui touchent aussi à l'idée que nous nous faisons, par exemple, de la laïcité. La laïcité est un principe cardinal de notre vie démocratique, mais la laïcité, c'est la séparation de l'État avec les religions. Ce n'est pas l'interdiction faite aux religions de s'exprimer, y compris dans le débat public et dans l'espace public. Je me souviens de Mme Le Pen disant qu'elle demanderait aux personnes de confession juive de bien vouloir avoir la discrétion d'enlever leur kippa dans la rue. Moi, je crois l'exact inverse. Je pense que la France s'honore de ce que, justement, la vie de notre pays est faite de ces communautés qui l'ont construite tout au long de son histoire, et la communauté juive, bien sûr, au premier chef. Et je ne veux pas la voir disparaître de l'espace public. Au contraire, je veux qu'elle puisse apparaître dans notre société tout entière. Je ne veux pas demain qu'on empêche la vie juive par l'interdiction des pratiques rituelles, par l'interdiction de pratiques alimentaires qui aujourd'hui sont menacées à bien des titres. Nous avons des désaccords de fond avec le Rassemblement national, y compris sur cette question de la façon dont nous devons construire notre société pour demain.
François-Xavier Benhamy, tête de liste des Républicains pour les Européennes, je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Chalon. Bonsoir à vous.
Merci à vous. Merci encore.